petite enquête patrimoniale, présentée par Martine Balou.
Alors aujourd'hui, bonjour, j'ai souhaité vous parler d'un personnage qui fait partie du patrimoine et de l'histoire de Périgueux, qui n'est pas toujours très bien connu, car finalement il a un hôtel particulier à son nom, la Grande Chancelle, qui était l'ancienne mairie de Périgueux, place de l'ancien hôtel de ville, comme son nom le dit, et qu'il a une rue aussi, qui est juste, on va dire, au début du quartier du Toulon, à la fin du quartier Saint-Martin. Alors, ce personnage s'appelle Lagrange Chancelle, et on l'appelle aussi la guêpe du régent. Voilà. C'est toute une petite enquête patrimoniale dans cette chronique. Alors, il est né en 1677, le 1er janvier. Vous comprenez pourquoi je l'ai choisi, puisque finalement, on est dans le mois de janvier. Et s'il est des personnages dont le lieu de naissance peut donner matière à controverse, ce ne sera pas le cas de Lagrange Chancelle, et pourtant certains l'ont fait naître quelquefois à Antoniac, près d'ici, à Razac-sur-Luy. Eh bien non, il est bien né à Périgueux, c'est-à-dire à l'emplacement de l'hôtel Lagrange Chancelle, au cœur de la ville. Et il a écrit lui-même dans une lettre à l'intendant de Guyenne en 1737 qu'il n'est point né dans une autre ville que celle de Périgueux. Alors, ça va permettre d'évoquer toute son histoire, qui quand même est en dialogue avec le village ou la ville d'Antoniac, près de Razac-sur-l'Isle, où sa famille a passé la plus grande partie de l'année dans une très belle maison de campagne. « Je couchois, écrit-il, avec mon frère, plus jeune que moi, de 2 ans, dans une tour au 2e étage du château, où je prenais grand soin de fermer tous les soirs la porte en dedans. Et lorsque je ne m'étais mise au lit, je ne cessais de lire que lorsque j'étais accablée de sommeil. » Le domaine d'Antoniac existe toujours. En fait, ce jeune garçon dont le père voulait qu'il soit mousquetaire, lui préférait écrire. Et d'ailleurs, il a failli mettre le feu dans sa chambre, aussi bien à Antoniac qu'à Périgueux, à plusieurs reprises. C'est un talent précoce. Donc, de sa passion pour la lecture et les belles lettres, les pères du collège des Jésuites de Bordeaux allaient tirer merveille jusqu'à 16 ans du destin prodigieux de leur jeune élève, qui parvenait à faire jouer devant la cour de Versailles quand même. Donc, quand on dit le lien entre Périgueux et Paris, il est là aussi déjà au XVIIe siècle. Une tragédie qui s'appelait Jugurtha. Et à la fin de la représentation, le plus grand homme de théâtre de l'époque, j'ai nommé Racine, en personne, félicita l'auteur. Avouez qu'il y avait là de quoi tourner une tête moins raisonnable que la sienne. Et victime de sa grande facilité, de son succès, la Grande Chancelle, auteur à succès, produira une dizaine de tragédies. Il va produire Oreste et Pylade. Il va produire également Anasis, Méduse, 3 opéras et une comédie qui figureront longtemps au répertoire du théâtre français. Il n'y a pas encore de théâtre à Périgueux, il arrivera plus tard. Alors, c'est aussi, je vous ai parlé d'un mousquetaire dont son père rêvait. Eh bien, effectivement, pour l'histoire et pour faire rêver notre public, jeune et moins jeune, c'est un avisé de cadet de Gascogne. Il ne compte pas seulement sur les lettres pour faire son chemin dans le monde. Le jeune Lagrange Chancelle, quand même, est le page du prince de Conti. Et il obtient une lieutenance dans le régiment du roi. Ce n'est pas passé inaperçu dans le corps prestigieux des mousquetaires. Il devient maître d'hôtel de la princesse Palatine, puis secrétaire du duc de la Force et son commis pour les finances. Une situation très enviable. Cependant, comme beaucoup de Périgourdins au caractère très rebelle, il va manifester un caractère difficile. Il se brouille avec son maître, déjà. Ce n'est pas une bonne solution, hein, mais bon, c'est qu'ainsi. C'est son tempérament et il n'y va pas de main morte. Il aurait fait représenter son maître dans une pièce dont il avait emprunté le manuscrit à son secrétaire. Il n'était pas représenté de la meilleure des façons. Le duc de la Force est un puissant personnage. Il a l'oreille du régent Philippe d'Orléans, maître de France à ce moment-là. Il ne fait pas bon se mettre en travers de son chemin. Et finalement, de fil en aiguille, la querelle s'envenime tant et si bien que la grande chancelle va tâter du cachot, puis reçoit l'ordre de s'exiler à Paris. Il ira, la mort dans l'âme, installé à Antoniac avec sa famille, préparant dans le silence de sa retraite sa vengeance contre ses persécuteurs. Eh bien, ce sont les Philippiques qu'il va écrire contre les régents Philippe d'Orléans. Un pamphlet quand même si c'est une vengeance, diserons-nous d'un côté positif, talentueux, dont la violence ne le dispute comme le veut la guerre qu'à la mauvaise foi. Le régent y est accusé en autre méfait d'empoisonnement. Alors vous imaginez, à l'époque, accuser le régent d'empoisonnement, mais c'est juste impossible. Ça reflète un peu, si on écoute l'actualité aujourd'hui, nous avons le président du foot avec les Zinedine Zidane. Eh bien, après, on s'excuse. Mais c'est trop tard, parfois, quand on s'excuse. Eh bien, c'est un peu pareil pour lui. Et alors, pour varier ses occupations, notre auteur entretient avec divers voisins des querelles domestiques. Il ne peut pas s'en empêcher, il est en état de rébellion. Il n'arrive pas à, finalement, s'agacer concrètement contre le régent, que par des pamphlets. Il va s'agacer contre ses voisins et c'est une dispute avec le seigneur de Leymarie du château de La Roche qui se trouve La Roche-Beaulieu, tout près de Razac. Et qu'est-ce qu'il dispute ? Eh bien, c'est le droit de chasse. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce sujet, parce qu'on est en plein dedans, et de pêche, on n'y est pas encore, peut-être, et on n'y sera jamais. Puis le marquis de Bailly, dont il chatouille aussi la préséance en faisant passer des girouettes chicanant avec ses propres fermiers. Il n'en peut plus, il faut qu'il exprime ses pulsions un peu négatives et de querelle. Eh bien, il le fait auprès de ses voisins. Alors, au bout d'un moment, le gouverneur de la province, monsieur de Bervic, qui est bientôt alerté par l'agitation créée autour de ce nouvel administré dans ce petit village très calme auparavant, va devoir effectivement mettre un petit peu le holà à tout cela. Mais finalement, la grande chancelle donne le change par des activités innocentes. Par deux fois, il essaye de fonder une académie, c'est ce qu'on a oublié souvent à Périgueux, littéraire du Périgord, où il va parler de gastronomie, de petits pâtés de Périgueux, etc., etc. C'est tout calme. Cependant, sa grande vengeance chemine, et bien les ennemis du régent, comme le duc et la duchesse de Maine, qui savent quel parti politique on peut tirer d'un aiguillon, aussi empoisonné que celui de la grande chancelle, font diligence. Un dimanche, écoutons bien, de 1719 à Paris, les belles dames et les beaux messieurs sortent de l'église Saint-Roch. Pas confondre avec la chapelle que nous avons à Périgueux, dans la rue Aubergerie, ce n'est pas le même endroit. Et font charité coutumière et se voient remettre par un aveugle qui propose d'ordinaire des cantiques du papier imprimé. Allons savoir ce que cela cache. Bien, sens d'innocence, litanie d'église, un regard furtif, non. Des mots incendiaires, aubaine. C'est l'un de ces plans faits qui courent sous le manteau. Ainsi vont parvenir au grand public les odes écrites dans la solitude champêtre à côté de ses voisins dont il ne pouvait avoir autant de querelles à Antoniac. 5 odes, les Philippiques, dont les 2 dernières seront quand même imprimés en Hollande. Alors, l'écrit, certes, est anonyme. Quand même, la police n'est pas complètement stupide. On finit par identifier leur auteur, d'autant que celui-ci aurait laissé passer le bout de l'oreille lorsqu'il écrivait, défendant Voltaire, en disant « On punit les vers qu'il peut faire plutôt que les vers qu'il a fait. C'est sur des alarmes pareilles que l'initiateur de Corneille gémit au fond du Périgord. » Alors, les choses n'ont pas traîné. Le samedi 17 février, donc on est dans notre créneau mensuel, 1719, à la nuit tombée, les dragons de Berwick cernent Antoniac. Ils ont mission de prendre l'insolent pamphlétaire, mort ou vif. Eh bien, la garante chancelle, avertie par ses serviteurs, ne perd pas un instant. Mais pas fou, hein. Depuis plusieurs jours, il était prêt à cette éventualité. Et même, il l'a rêvé, finalement. Et il avait, dans la maison, donc, repéré un souterrain, pratiqué au moment des guerres de la Fronde, quelques ans avant, qui permettait de quitter très rapidement le Noumen. Notre homme s'y engage à la lueur d'une torche partée par un des domestiques, tandis que les dragons vont fouiller le logis sans ménagement. Ce souterrain, qui passait sous l'actuelle route nationale, que vous empruntez sûrement aujourd'hui pour aller vers des grands magasins comme Auchan, eh bien, ce souterrain montra à l'époque un éboulement survenu pendant des dernières années au passage d'un poids lourd qui aboutissait dans les bois. Quand on dit un poids lourd, c'est un énorme attelage à cheval, portant des denrées et notamment des citernes de vin. Et après avoir trouvé refuge chez un ami avisé que les recherches allaient s'étendre au voisinage, la grande chancelle, avec 60 pistoles de la pierrerie que lui avait envoyée sa femme, une femme admirable qui va l'aider à s'évader et qui va aussi le supporter. C'est peut-être pour ça que finalement, elle l'avait aidé à partir. Elle va s'empresser de prendre le large. Selon la légende, pour dérouter ses poursuivants, il aurait pris le chemin de Bordeaux sur un cheval dont il aurait fait mettre les fers à l'envers. Vous vous rendez compte ? Les fers à l'envers, ben oui, pour ainsi contrecarrer les recherches. Alors, il va gagner un refuge, c'est Avignon, donc dans le territoire papal, où sa présence est bientôt signalée à la police quand même, du roi. On va tenter par ruse de le faire sortir pour le prendre sans esclandre diplomatique. La cheville ouvrière de la machination sera un autre réfugié condamné pour meurtre et ancien officier qui met l'existence donc oisive des exilés. Et sur ordre, car on lui a promis l'amnistie, on l'a promis donc qu'il serait presque retrouvé dans sa liberté, il devient l'ami de la grande chancelle, ce personnage. Et sous prétexte d'une partie de plaisir dont l'annonce endort la méfiance de l'écrivain, l'entraîne jusqu'à Arles. La police tient sa proie. Eh bien, le régent est bien résolu à mettre son ennemi hors d'état de nuire. Il l'envoie dans une île renommée pour l'efficacité de sa prison, puisqu'on y détient déjà le mystérieux homme au masque de fer. Qu'est-ce que c'est cette île ? Allez, le public, on cherche. 1, 2, 3. Ben, c'est l'île Sainte-Marguerite, près des îles de la Reims. La grande chancelle, gentilhomme, auteur à succès, bel esprit, bel homme, va être d'abord une aimable société pour le gouverneur de la prison. Mais hélas, chasser le naturel, il revient au galop. Le caractère espiègle et vraiment imposant de l'auteur va accomplir de nouveaux ravages. Le prisonnier se laisse aller à écrire des vers railleurs pour son geôlier. Quelle idée ! Brouille, colère, cachot, la grande chancelle désespérée adresse une ode au régent pour l'implorer sa clémence. Incroyable quand même ! Il ne doute point de lui. Il écrit contre le régent, il est envoyé en exil, il se fâche avec son gardien de prison et il demande de l'aide au régent. Mais vous allez voir la suite. Le régent, finalement, n'est pas un mauvais homme, puisqu'il se laisse attendrir et permet un adoucissement de régime à ce captif avec des promenades sur les murailles. Nous, on en rêverait aujourd'hui. La grande chancelle n'en demande pas plus. Il voit la mer, les côtes de Provence, toutes proches des domestiques et des gardes, que quelques pierreries donc inclineront à la complicité. Et vous vous en doutez, eh bien, une nuit, dans le meilleur style des romans de Cap et d'Épée, que j'affectionne particulièrement, c'est l'évasion sur une barque. Alors on inspire, on souffle, on respire, on s'imagine ce périgourdin qui nous fait rêver. Même s'il n'a pas fait que des choses bien avec son tempérament, il nous fait quand même rêver dans le cap et l'épée. Eh bien, dès lors, ce sera la vie de l'exil, avec ses heures ingrates comme en Espagne, ses moments prestigieux comme en Hollande, où le proscrit reçoit une montre en or et une invitation quand même d'Auguste Ier, électeur de Saxe et de Pologne, à venir vivre en sa cour. Il y a pire. Mais le régent meurt. La grande chancelle va enfin pouvoir rentrer à Paris en 1728. Il consacrera sa vie à quoi ? Comme s'il ne pouvait pas rester tranquille, non. Il a ce caractère belliqueux en lui. Il va poursuivre son fils dans le mariage qui lui a déplu et dans son domaine d'Antoniac occupera ses derniers loisirs à amasser les matériaux d'une histoire du Périgord. Il va s'éteindre à 82 ans et sera enterré dans l'église de la paroisse de Razac, où une plaque mentionne aujourd'hui donc ce fait. Eh bien, la grande chancelle, c'est un sacré personnage comme d'autres dont on aura l'occasion de parler, mais c'est un homme qui nous aura fait rêver, avec un tempérament un peu trop impétueux, certainement, mais peut-être à comprendre dans une enfance qui n'a pas été toujours bien, on va dire, accompagnée. Et voilà, ça me fait penser beaucoup à l'actualité d'aujourd'hui, au Poinçary, etc., etc. Il faut comprendre aussi, quelquefois, dans les racines de l'histoire, l'enfance, ce qui nous fait aller et ce qui nous fait être. Et je vous remercie. Vous pouvez me retrouver maintenant sous l'appellation Historiacité, Martine Balou, avec ma petite entreprise. Je réaliserai ma troisième visite thématique en lien avec un événement. Le prochain événement après l'épiphanie, c'est la Chandeleur. Et j'ai eu envie de vous faire découvrir le 4 février avec un départ à 14h30 devant le Parc vie de Saint-Étienne de la Cité, l'ancienne cathédrale, de faire découvrir un petit peu des pépites patrimoniales dans les coulisses de cette ville avec l'aide de propriétaires pour remonter finalement à l'époque romaine où la fête de la Chandeleur s'appelait les Lupercales et c'était une fête pastorale latine qui va devenir au 4e et 5e siècle sous le pape de l'époque et une fête des chandelles. Donc nous allons remonter le temps et c'est un tremplin pour aussi avoir ces secrets et ces mystères, comme je les ai appelés, de la ville antique. 14h30 le 4 février pour prendre donc des réservations qui sont nécessaires. C'est au 06 75 87 02 48 02 48 et donc le tarif unique est de 8 € et la visite dure à peu près 1h30 avec une petite surprise comme j'aime les faire à la clé. Je vous remercie.
C'était Martine Balou,
directrice du patrimoine, service ville d'art et d'histoire, ville de Périgueux.